On va reprendre. Sans trop attendre d'ailleurs, je vais inviter Sylvain Acatias, donc de l'Université de Limoges, à prendre la parole tout de suite et puis peut-être à se présenter un peu plus que je ne le fais et à nous préciser donc la nature de son intervention. Sylvain, c'est à toi.
Merci Jean-Philippe. Bon, je vais être assez rapide. Donc, je suis sociologue, je travaille effectivement à l'Université de Limoges sur deux domaines que je tiens à bien séparer. D'un côté, les cultures juviniles, de l'autre, la bande dessinée, pour qu'il n'y ait pas, vous voyez, de confusion possible ou d'ambiguïté. Ce qui va donc m'amener au sujet que je vais traiter. Donc, moi, a priori, je travaille plutôt en sociologie du goût, comment les gens acquièrent le goût d'un objet. Et donc là, je vais parler du goût de la bande dessinée. Alors, je ne vais pas faire vraiment acquisition, transmission, renforcement et abandon. Je vais faire transmission, acquisition, abandon et renforcement. Ça va ? C'est pas très grave. Hein ? Bon, alors on va commencer comme ça. Je vais commencer. Alors, vous le savez, on est un petit peu en retard. On est toujours un peu en retard. Donc, je vais essayer d'aller plus vite et puis de profiter de ce que mes collègues ont déjà dit ce matin. Bah, vous l'avez compris, en fait, finalement, globalement, le gros de la production de la bande dessinée, puis le gros des lecteurs surtout, eh bien, ce sont plutôt les enfants et les adolescents. Et quand on regarde effectivement notre enquête, eh bien, c'est 76% de la population qui a lu de la bande dessinée étant enfant, mais c'est moins de la moitié de cette proportion qui a poursuivi cette lecture à l'âge adulte. Autrement dit, si la bande dessinée semble très répandue à l'enfance, le goût semble en diminuer à l'âge adulte. Or, on pourrait penser qu'au contraire, s'il y a beaucoup d'enfants qui lisent de la bande dessinée, ce serait une première socialisation à la bande dessinée qui perdurerait à l'âge adulte. Donc effectivement, un de nos problèmes, ça va être de savoir comment se transmet la bande dessinée d'abord, comment ensuite, est-ce qu'il y a d'autres modes d'acquisition que la transmission, j'entends parler essentiellement la transmission familiale, et puis ensuite, bah, pourquoi est-ce qu'abandonnent ceux qui abandonnent, et enfin, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui renforce le goût à l'âge adulte. Alors, pour traiter ça, bah, je vais commencer directement donc par la diapositive 3. Je vais sauter la 2, tant pis pour vous. Ben voilà. Et simplement donc pour vous montrer voilà, quelque chose de très simple. Vous voyez que 65% finalement des personnes interrogées disposaient de bandes dessinées chez eux, enfants. Et donc vous voyez que bah, globalement, ça explique déjà bien en soi les choses, puisqu'on voit bien que... Alors évidemment, c'est en effectif. Hein, c'est pour ça que les anciens lecteurs de bandes dessinées sont finalement beaucoup plus nombreux que les lecteurs de bande dessinée. Les non-lecteurs sont assez nombreux aussi, mais en fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'à chaque fois, les proportions bleues, c'est-à-dire disposées de bande dessinée, bah, permettent d'une certaine manière de prédire les choses pour les non-lecteurs de bande dessinée. C'est assez net. Au contraire, pour les lecteurs de bande dessinée, les anciens lecteurs de bande dessinée, bah, on voit que finalement, ça ne suffit pas pour prédire la disposition à lire de la bande dessinée, puisqu'en fait, bah, globalement, si je le convertis en pourcentage, c'est 85% des lecteurs, encore lecteurs actuels, qui disposaient de bandes dessinées chez eux. Ce ne sont plus que 77% des anciens lecteurs. Vous voyez que la proportion rouge est un peu plus importante. Et 22% finalement des non-lecteurs. Donc voilà, ça commence à expliquer les choses, mais ça n'explique pas tout. D'une part, on peut dire qu'effectivement, on voit bien l'extension, au moins pour cette période-là, de la bande dessinée dans les foyers, l'incontestable relation qu'il y a finalement entre le fait de disposer de bande dessinée et de s'y socialiser. Mais en même temps, on voit bien que cette relation n'est pas suffisante pour déterminer l'acquisition du goût, puisqu'on a énormément d'anciens lecteurs qui ont possédé des bandes dessinées au foyer étant enfants, mais qui n'ont pas poursuivi cette lecture. Donc là, logiquement, il faut qu'on aille un peu plus loin pour voir comment les choses se passent. Et voilà donc là, la diapositive suivante, qui vous donne un certain nombre d'indicateurs de transmission, toujours la lecture des bandes dessinées enfants. Et puis, à côté de ça, bah, les achats de bandes dessinées par les parents, la discussion à propos de bandes dessinées avec les parents, et les parents lecteurs de bandes dessinées. Alors, avant de parler directement de la transmission familiale, je tiens à vous faire remarquer que finalement, ce sont 56% seulement des anciens lecteurs de bandes dessinées à qui leurs parents en achetaient. Or, ce sont 73% d'entre eux qui en lisaient. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, hein, il fallait bien qu'ils trouvent ces bandes dessinées ailleurs. Donc, on y reviendra après, mais... Voilà. Hein. Donc la transmission parentale, elle, bah, elle s'affirme quand même avec force. Elle fait la différence d'une part entre les non-lecteurs et d'autre part anciens lecteurs et lecteurs actuels. C'est ce que vous voyez sur les deux premières lignes. Lecture de bande dessinée étant enfant, les non-lecteurs de bande dessinée, 12%, c'est très faible. Achat de bande dessinée par les parents, 72%, un petit peu moins pour les anciens lecteurs de bande dessinée, mais 13% seulement pour les non-lecteurs. Là, on a une vraie différence. Et puis par contre, après, on a deux autres items finalement qui sont plus explicatifs parce que bah, pour les lecteurs de bande dessinée, c'est quasiment le double pratiquement que pour les anciens, enfin c'est plus du double que pour les anciens lecteurs de bande dessinée. Puis alors, je ne parle pas pour les non-lecteurs de bande dessinée, vous voyez que finalement, 2% ou 3%, c'est quasiment nul. Donc là, en fait, on a un facteur distinctif qui est que c'est pas seulement je lis de la bande dessinée alors que je l'ai acquise par mes parents ou par d'autres voies, c'est que finalement aussi, cette bande dessinée, elle est acceptée au sein du foyer, j'en discute avec mes parents, voire même mes parents sont lecteurs de bande dessinée. Et là, très probablement, on a un facteur de transmission qui est beaucoup plus important, même si ça ne concerne finalement globalement qu'un tiers des lecteurs actuels de bande dessinée. Donc un véritable facteur de socialisation, mais malgré tout, relativement réduit et qui ne concernera pas tout le monde. Donc voilà, ça, ce sont vraiment, ça nous donne déjà un bon point de vue, un véritable impact de la transmission familiale, mais finalement qui n'explique pas la totalité de la pérennisation de la lecture de bande dessinée. Et là maintenant, donc les parents qui ont conseillé à leurs enfants de lire de la bande dessinée, eh bien là c'est autre chose, ce sont les lecteurs actuels à qui on a posé la question, est-ce que vous avez conseillé à vos enfants de lire de la bande dessinée ? L'idée c'est de voir si finalement, pour ceux qui lisent actuellement, eh bien ce comportement de transmission se retrouve aussi. Et vous voyez qu'il se retrouve de manière très très nette, là ce sont effectivement, les lecteurs de bande dessinée, les anciens lecteurs et les non-lecteurs qui ont conseillé à leurs enfants de lire des bandes dessinées. Et ce qu'on voit finalement très nettement, c'est que 71% des lecteurs de bandes dessinées ont conseillé à leurs enfants d'en lire, 43% seulement des anciens lecteurs et 23% des non-lecteurs. Donc là, il n'y a pas de problème. Globalement, on voit bien que le fait de lire de la bande dessinée nous met dans une disposition où on a envie de la transmettre, c'est-à-dire que d'autres, plus on lit de bande dessinée, plus on est prescripteur de la lecture de bande dessinée auprès de ses enfants. L'autre tableau que vous voyez là montre aussi que finalement, ça dépend directement du volume lu, puisqu'en fait, vous voyez, ce sont les amateurs. Les amateurs, je vous l'ai mis en dessous. Ce sont les lecteurs qui déclarent à la fois lire actuellement des bandes dessinées tout au long de l'année et que de ne plus lire de bande dessinée durant 6 mois leur manquerait beaucoup. Donc là, ce sont vraiment ceux qui aiment vraiment la bande dessinée, ce sont les passionnés. Et puis, les lecteurs lisant au moins 10 bandes dessinées par an ou ceux en lisant au moins 5, eh bien, on voit que les taux baissent. Ce sont finalement 89% des amateurs de bande dessinée qui les conseillent à leurs enfants, 77% des lecteurs lisant au moins 10 BD par an et 60% des lecteurs occasionnels. Donc là encore, il y a un effet direct du volume de lecture sur l'envie de transmettre. Alors bien sûr, ça ne nous garantit pas que les enfants eux-mêmes en lisent, on est d'accord. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont envie d'en transmettre. D'ailleurs, on note assez bien que finalement, quand on regarde les questions sur les enfants, donc les 15-17 ans, qui disent parler avec leurs parents en fait, de bande dessinée, eh bien, ça baisse avec l'âge. C'est-à-dire que globalement, après 16 ans, ils ont quand même moins tendance à écouter les conseils de leurs parents. Donc de ce fait... voilà. Alors, donc, pour le dire ainsi, finalement... il y a bien un rôle important de la transmission familiale qui probablement explique à peu près la transmission pour un bon tiers des lecteurs actuels. Mais il y a aussi d'autres instances de sensibilisation à la bande dessinée. Alors j'en parlais en faisant appel à d'autres sources parce que finalement on a peu traité dans le questionnaire cette question. On a surtout traité la question de la transmission familiale. Donc je me suis beaucoup servi en fait d'un ouvrage dont on vous a parlé ce matin, l'ouvrage de Christine Détré et d'Olivier Vanet sur les mangas d'eau, c'est-à-dire lire des mangas à l'adolescence, qui nous ouvre des pistes importantes, et effectivement qui permettent de traiter un peu mieux les choses. Donc, une de leurs premières remarques, c'est que finalement, la découverte des bandes dessinées se fait souvent dans le prolongement de celle des dessins animés. Ce n'est pas illogique en ce qui concerne le manga. Il y a les animés donc, qui sont diffusés et où on retrouve de mêmes graphismes, de mêmes héros, de mêmes histoires. C'est assez logique. Mais en même temps, on pourrait rapprocher cette réflexion alors, d'une autre enquête qu'on a menée dans le Limousin en 2009, où on a un échantillon représentatif des élèves de 5e, 3e et 1er qui ont été interrogés. Et quand on regarde les bandes dessinées qu'ils citent, eh bien, vous voyez que pour les bandes dessinées citées dans l'année, la plupart d'entre elles ont connu des déclinaisons, soit sur le grand écran, c'est le cas pour Astérix, et soit sur le petit écran, c'est tous les autres. Et ce sont ceux qui sont en jaune, bien sûr. Et vous voyez que finalement, en volume, c'est assez important, puisque... globalement, les 4 premiers, les 4 plus nombreux, ont connu des déclinaisons de ce type. Alors, bien sûr, je ne peux pas dégager une démonstration complète depuis ces éléments disparates, mais néanmoins, on voit que finalement, c'est intéressant de constater que la télévision pourrait peut-être être, enfin, tout au moins les dessins animés que diffuse la télévision, pourrait être un moyen possible de sensibilisation à la bande dessinée, alors même que probablement, en fait, quand on choisit d'adapter de la bande dessinée à la télévision, c'est bien en sens inverse, c'est bien parce qu'on pense attirer justement que ça intéressera des gens qui ont déjà lu les bandes dessinées. Donc ça serait une espèce, de retour de la par le dessin animé à la bande dessinée. En même temps, ça fait appel à quelque chose dont on a déjà parlé ce matin, notamment Benoît, toute la question de la transmédialité. C'est le fait aussi que finalement, on a des qualités spécifiques aux bandes dessinées, ou aux dessins animés d'ailleurs, en ce qui nous concerne ici, qui font qu'il est plus aisé techniquement de passer probablement de l'un à l'autre, de par leur proximité graphique. On pourrait même faire la même réflexion vis-à-vis du jeu vidéo, par exemple. Ce pourquoi, vous voyez, donc des DVD, des films, des jeux vidéo. Et donc, on peut penser que quand même, à l'heure actuelle, il n'y a plus un seul moyen de se sensibiliser à la bande dessinée ou de la rencontrer, mais plutôt un moyen de découvrir des œuvres multiples par des voies multiples qui peuvent ramener toutes vers la bande dessinée. Alors là encore, on ne peut pas le démontrer totalement, mais il semble bien que cette transmédialité agisse de manière assez nette au-delà des simples dessins animés. Alors d'autres instances probablement encore de sensibilisation, c'est toujours le travail de Christine Détré et d'Olivier Vanet qui ouvre cette piste, les enfants peuvent découvrir la bande dessinée en bibliothèque, par exemple. Et les auteurs citent plusieurs cas de jeunes qui ont découvert des mangas par le documentaliste de leur établissement scolaire ou sur les rayons, sur les rayons de la bibliothèque locale. Alors, même si les chiffres que je vais manipuler sont un peu bas, je tiens à signaler que, par exemple, quand on fait un tri sur l'enquête TMO, si je prends les 15 à 17 ans, lecteurs de bande dessinée, qui ont déclaré que personne, hormis eux, n'avait de bande dessinée au foyer, eh bien, c'est 85% d'entre eux qui ont fréquenté une bibliothèque ou une médiathèque dans les 12 derniers mois. Alors, comprenez-moi bien, c'est un indicateur indirect. Je ne peux pas démontrer qu'ils ont été regardés spécifiquement des bandes dessinées. Mais le fait est que, quand même, la relation est forte et qu'effectivement, on peut penser qu'il y a au moins une partie d'entre eux qui les découvrent ou qui les lit dans les bibliothèques. Une autre zone d'ombre de notre enquête, la transmission par les pairs, là encore notée par Christine Détré et Olivier Vanet. Là, on n'a pas vraiment de questions à ce sujet dans l'enquête, mais on peut difficilement penser qu'à notre époque, où on voit justement une transmission qui est au moins autant horizontale que verticale, que ça n'ait aucune importance sur la transmission de la bande dessinée. Donc là encore, je vais faire appel finalement à l'enquête faite dans le Limousin, où on posait une question alors qui est un peu différente, c'était la raison du choix des bandes dessinées. Et vous voyez donc des grandes raisons, donc par intérêt, trouvées par hasard. Donc qui montrent quand même que malgré tout, quand c'est par intérêt ou trouvé par hasard, ça veut dire aussi que finalement, les élèves interrogés disposent quand même déjà des compétences qui leur permettent de reconnaître soit leur intérêt. Quand on dit trouvé par hasard, ça veut dire que dans les rayons d'une librairie, d'un supermarché, d'une bibliothèque, ils ont su reconnaître quelque chose qui pouvait les intéresser en décryptant la couverture, la quatrième de couverture, etc. Et puis ensuite, vous voyez arriver le conseil d'un ami. Et c'est le troisième pourcentage. En ordre d'importance, vous voyez qu'il y a plus de réponses finalement que d'élèves. Ils sont 551 lecteurs de bande dessinée sur l'année. Et en fait, ils ont donc donné à chacun deux réponses à peu près. Et donc, de fait, les conseils d'un ami arrivent de manière très importante. Et puis ensuite, on retrouve la télévision dont on parlait tout à l'heure, de manière assez nette, bien avant les conseils de parents, dont on a montré pourtant que ça avait un certain poids. Bien avant l'influence éventuelle d'Internet, dont pourtant on nous dit maintenant qu'elle est relativement importante, bien avant, bien sûr, les conseils d'un professeur, mais ça, on peut imaginer qu'effectivement... Alors, je ne vais pas vous parler beaucoup, justement, de l'école, parce qu'on a très peu de données là-dessus, mais surtout, il ne semble pas que ce soit un rôle vraiment important à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qu'on peut savoir, à la fois sur la transmission familiale et sur les autres instances de sensibilisation de la bande dessinée. Je vais donc passer maintenant... à un point important, c'est l'arrêt de la lecture de bande dessinée, puisque, je vous l'ai dit, la plus grande partie de notre échantillon, ce sont des anciens lecteurs. Et on va noter d'abord que finalement, l'arrêt de la lecture de bande dessinée se produit pour l'essentiel avant 25 ans. Avant 25 ans, c'est 79,5% des arrêts. Donc, je vais me focaliser sur cette période-là, en fait. Et quand on examine les raisons d'arrêt de la bande dessinée en fonction de l'âge d'arrêt, et moi, j'ai dessiné deux grandes périodes, eh bien, on voit apparaître des motifs récurrents qui font sens au regard des périodes de la vie des personnes interrogées. Et donc, je vais commencer en fait par ceux qui ont arrêté avant 15 ans. Et donc, vous voyez, les motifs d'arrêt des anciens lecteurs qui ont arrêté avant 15 ans, eh bien, la première chose, c'est le désintérêt de la bande dessinée, et puis ensuite, la préférence pour d'autres lectures loisirs ou le manque de temps. Alors, je vais commencer par le désintérêt de la bande dessinée, parce que première chose qu'on peut se dire, c'est que finalement, s'ils ont abandonné la bande dessinée, c'est peut-être aussi ce désintérêt qu'ils se disent que finalement, la bande dessinée, c'est fait pour les enfants. Et puis que, à 15 ans, on commence à être grand, il ne faut pas exagérer, c'est fini, il faut arrêter d'en lire. Mais quand on regarde, par exemple, les anciens lecteurs qui ont répondu à une question dans laquelle on leur demandait justement de dire si ils pensaient que la bande dessinée s'est fait uniquement pour les enfants ou les adolescents, ou au contraire, si ça pouvait se destiner à d'autres publics, eh bien, c'est la majorité d'entre eux, un peu plus de la majorité, 54%, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette assertion. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment conclure de cette manière-là. Sauf que si on regarde, alors là, du coup, pas sur les mêmes lecteurs, mais sur les 15-17 ans actuels, eh bien, là, en fait, on a un tout autre résultat. Ça, ce sont donc les 15-17 ans. Et vous voyez, en fait, alors, lecteurs, anciens lecteurs et non-lecteurs de bande dessinée, selon qu'ils sont en accord ou en désaccord avec le fait que les BD soient surtout faites pour les jeunes, et le tableau est donné, là encore, en effectif, et vous voyez que les anciens lecteurs de bande dessinée, globalement, sont d'accord avec cette assertion, alors qu'évidemment, ceux qui continuent de lire de la bande dessinée sont en désaccord. C'est pas totalement stupide comme raisonnement. Mais ça veut dire que, probablement, pour ceux des anciens lecteurs qui sont adultes, ils se disent que, finalement, avec le temps, probablement, soit ils ont changé d'avis, soit en tout cas, ils ne veulent pas trop se mouiller en répondant à la question. Mais en tout cas, leur réponse est fondamentalement différente des premiers concernés, c'est-à-dire ceux qui arrêtent à cet âge-là. Et effectivement, là, on le voit très bien. Donc, on peut le dire comme ça, il est probable qu'un nombre non négligeable de jeunes lecteurs arrêtent de lire des bandes dessinées simplement parce qu'ils pensent qu'elles ne sont plus leur âge, ou plus cyniquement pour montrer qu'ils ont grandi et que maintenant, c'est fini, quoi. Dans le même temps, on peut se poser la question aussi de mettre ces changements en rapport avec l'évolution finalement des intérêts en fonction de l'âge. Les activités de loisirs varient en fonction des âges, on le sait. Il n'y a pas de raison pour que la lecture de bande dessinée échappe aux modifications qu'entraînent les changements de statut, que ce soit au niveau de l'éducation et du travail. On est élève, on devient étudiant, salarié, etc. Ou du statut familial, on est enfant, puis jeune célibataire, puis parent. Et là encore, on voit bien que les motifs dont je vous parlais tout à l'heure, si je reviens en arrière, vous voyez que c'est la préférence pour d'autres lectures ou loisirs et le manque de temps. Et globalement, on voit bien que là, on est dans la restructuration du temps à l'adolescence, avec, pour un certain nombre, l'entrée dans des classes supérieures, bientôt au lycée probablement, l'émergence de nouveaux loisirs, le renforcement des sociabilités juvéniles, tout ce qu'on va retrouver de manière encore plus importante au niveau des 16-24 ans, et ce qui correspond aussi à d'autres domaines d'activité. Par exemple, on voit bien dans les activités sportives, c'est aussi le moment où commence à se faire la désaffection de ces activités, et c'est lié aussi au changement des intérêts. Donc, je repasse pour les 16-24 ans cette fois-ci, et vous voyez que là, il n'est plus question du désintérêt de la bande dessinée. Les deux premiers motifs qui arrivent, c'est le manque de temps et la préférence pour d'autres lectures ou loisirs. Le manque de temps parce que, bien sûr, les demandes scolaires augmentent. Et on sait que pour certains lycéens, les demandes de lecture scolaire entrent en concurrence avec les lectures de loisirs. C'est assez net. Et puis, on a vérifié, en fait, je ne vous ai pas fait de tableau exprès pour ça, mais il y a une liaison positive entre le fait de n'avoir jamais ou presque jamais lu d'autres livres que des bandes dessinées étant enfant et le fait d'arrêter par manque de temps. Ce qu'on peut traduire par le fait que finalement, à partir du moment où les demandes de lecture scolaire augmentent, ceux qui ont le moins acquis de compétences de lecture sont le plus en difficulté et donc doivent dépenser davantage de temps pour maintenir finalement leur rythme de lecture scolaire. Autrement dit, dans ce cas, c'est tout simplement l'augmentation du niveau scolaire qui provoque une baisse de la lecture de bande dessinée. Alors, bien sûr, là encore, on ne peut pas tout à fait le démontrer, mais on va dire que les différents éléments vont bien dans ce sens-là. Et d'ailleurs, la liaison inverse existe aussi, c'est-à-dire que pour ceux qui ont lu beaucoup d'autres livres, eh bien, ils arrêtent beaucoup moins souvent par manque de temps. Ce sont d'autres raisons qui priment. Donc on peut penser que quand même, là, il y a quelque chose qui tient aux compétences de lecture auparavant. Et probablement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un déficit de passage de la bande dessinée à d'autres lectures à un moment donné, qui ensuite favorisera une faible lecture de livres, mais aussi l'arrêt de la lecture de bande dessinée. Je vais vous en reparler dans un instant. Voilà le dernier point qu'on peut souligner, c'est que finalement, c'est l'écrasante majorité des anciens lecteurs qui ne lisaient qu'un seul style de bande dessinée. Et c'est-à-dire que globalement, et on le retrouve bien aussi chez les lecteurs, ils lisaient beaucoup, plusieurs styles, pour la plupart d'entre eux. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrête d'autant plus facilement qu'on ne lit qu'un seul style. Vous voyez, c'est la majorité d'entre eux, 68,5%. Et effectivement, c'est quand même relativement considérable. Je précise qu'en fait, on avait en fait plusieurs catégories, plusieurs styles de bande dessinée. mais dont deux que je n'ai pas retenus, c'était les magazines de bande dessinée et je ne me souviens plus de la dernière, c'était les petits formats, je crois. Hein. Voilà, parce que simplement, ça peut atteindre trop de styles différents. Là, ce qu'on peut voir finalement, bah, c'est que globalement, ceux qui lisent un seul style ne vont pas maintenir leur lecture, ce qui est d'autant plus clair quand on regarde, bah, 96% des adultes anciens lecteurs n'ayant lu qu'un seul style de bande dessinée étaient des lecteurs de bande dessinée traditionnelle, la fameuse franco-belge, quand Christophe disait ce matin, c'est nous contre le monde entier, bah là, je suis désolé, mais ça marche pas bien, parce que finalement, ce sont ceux qui n'ont lu que de la franco-belge, dont on peut peut-être, alors je sais pas, imaginer qu'à cet âge-là, c'est plutôt de la bande dessinée tournée vers les jeunes, probablement, et donc que du coup, bah, ils ne sont pas passés à un style de bande dessinée plus adulte. Mais en tout cas, c'est clair que là, probablement, on a des jeunes qui considèrent que la bande dessinée traditionnelle n'est plus leur âge, et qui finalement lisent peu d'autres ouvrages et qui ne trouvent pas d'autres lectures, soit dans la bande dessinée, mais aussi peut-être dans les autres ouvrages, dans les autres livres. Et de fait, ils abandonnent la bande dessinée. Et donc du coup, bah, on pourrait tenir le raisonnement inverse, hein, de manière assez nette. Bah, on sait aussi que, assez globalement, plus on lit de styles différents, moins on arrêtera de lire de bande dessinée. Et donc effectivement, ça nous amène assez naturellement aux effets de renforcement. Je vais commencer finalement par un qui est assez simple, mais assez clair aussi, c'est le fait d'avoir lu en fait, d'autres livres étant enfant, d'autres livres que de la bande dessinée, et vous voyez qu'effectivement, bah, on a pratiquement une courbe assez nette qui se monte. Alors en même temps, je tiens bien à préciser que ça ne décide pas tout, vous voyez que le total, là c'est donné en pourcentage, s'arrête à 50%, hein. C'est-à-dire que c'est 48% des lecteurs actuels de bande dessinée qui déclarent avoir souvent lu d'autres livres pendant leur enfance. Ce n'est plus que 35% des anciens lecteurs et encore 26% des non-lecteurs de bande dessinée. Pour le dire autrement, c'est vrai que probablement la lecture de livres et d'autres livres que de la bande dessinée favorise la pérennité du goût pour la bande dessinée, mais pour une partie seulement de l'échantillon. Très clairement, ça n'est pas assez prédictif, puisque finalement, là, on a une portion qui est quand même inférieure à la moitié de l'échantillon. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un facteur qui agit de manière assez claire. Et puis on sait que, de manière générale, on l'a montré, plus on lit des bandes dessinées, on lit d'autres livres aussi, ça semble assez net. Je vais revenir très brièvement sur une des données qu'avait utilisée tout à l'heure Christophe, ce sont les classes socio-professionnelles. Bon, voilà, hein, j'insiste pas là-dessus. Hein, vous voyez bien que plus, finalement, les cadres, les étudiants et les professions intermédiaires. Alors, moi, j'ai fait, par rapport à ce que vous avez présenté ce matin, j'ai fait un regroupement sur les professions intermédiaires, que j'aurais donc d'ailleurs dû mettre au pluriel, m'en excuserai. Mais de fait, on voit bien que finalement, bah, en dehors des étudiants, dont on va dire que c'est lié probablement à l'effet d'âge et à l'effet étude, ce sont quand même les catégories supérieures de la population qui sont les plus présentes parmi les lecteurs. Donc, si vous vouliez décider si la bande dessinée était vraiment un art populaire ou pas, ça va devenir compliqué. Alors, je vais aller d'un autre côté sur les goûts spécifiques, parce qu'une question, quand on travaille sur le goût, qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'il y a des choses qui permettent de décrire le goût que l'on aurait pour un style ou un autre de bande dessinée. Je ne vais pas descendre, bien sûr, jusqu'aux séries elles-mêmes, ça serait impossible. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut voir des choses nettes? Bah, visiblement, il y a des choses qui permettent de relier au moins... Alors là, je me suis servi essentiellement des niveaux de diplôme pour essayer de le voir, puisqu'on voyait dès le démarrage que le niveau de diplôme agissait bien sur la lecture. Et je trouve un certain nombre d'oppositions. Alors j'ai sélectionné là encore les catégories qu'on a vues tout à l'heure. Et en fait, en sortant bien sûr les bandes dessinées traditionnelles, la bonne vieille franco-belge, parce que finalement, elles semblent assez peu distinctives et très lues par l'ensemble des niveaux de diplôme. Probablement aussi parce que la catégorie est très large en soi. Et que donc on peut y trouver tous un petit peu ce qu'on y cherche. Par contre, pour les mangas, les comics et les romans graphiques, eh bien là, il semble bien que se détachent des choses assez nettes. On va commencer par les romans graphiques. Les romans graphiques opposent clairement les personnes disposant au moins d'un diplôme universitaire de second cycle, qui sont 53% à déclarer les aimer, et les personnes ayant un diplôme inférieur au premier cycle ou étant sans diplôme, qui sont 59% à déclarer ne pas les aimer. Et les hommes sont plus affectés que les femmes par cet effet. Alors, c'est simple quand on fait le calcul, en fait, ben les femmes ne sont pas affectées en fait, par l'effet de diplôme, mais réellement, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont affectées par leur niveau, par leur volume de lecture. Ce qui détermine le fait qu'une femme lise des romans graphiques, c'est tout simplement le fait qu'elle lit beaucoup. Et plus elle lit, plus elle lira de romans graphiques. Pour les hommes, c'est très net, il y a un effet du diplôme. Globalement, ce sont 30% des titulaires d'un diplôme de premier cycle et plus qui sont dans ce cas, ce ne sont plus que 20% des bacheliers et 20%, je crois que c'est 20,5% des personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au baccalauréat. Vous voyez, 10% de différence. Donc là, on a vraiment quelque chose de net. Et effectivement, ça fonctionne aussi bien pour... Alors là, je vous ai donné les chiffres pour les lecteurs dans les 12 derniers mois. Et ça marcherait aussi pour le goût déclaré pour ce type de production. 44% des titulaires d'un diplôme de premier cycle et plus, contre 32% des bacheliers et 31% des personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au baccalauréat. Vous voyez qu'en fait, ce qui est vraiment distinctif, c'est le fait d'avoir un diplôme de premier cycle ou plus. Hein. C'est vraiment très, très net. Donc voilà en ce qui concerne les romans graphiques, pardon. Mais on a aussi un effet, évidemment, sur les mangas. Alors là, il va falloir que... Enfin, j'ai essayé de simplifier un peu, parce qu'on a un problème quand on parle des mangas, c'est qu'il y a un corrélat évident entre la pratique des jeux vidéo et la lecture des mangas. Donc, je vais vous demander de me faire confiance, je vais l'expliquer simplement. Les mangas opposent les personnes disposant d'un diplôme universitaire de premier cycle et celles disposant d'un diplôme universitaire d'au moins second cycle. 41% des premières disent aimer lire des mangas, 73% des secondes disent ne pas apprécier ces bandes dessinées. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment deux valeurs opposées. Une fois qu'on essaye de corréler les choses, donc on l'a fait, enfin moi je l'ai fait à partir de la population des 18-39 ans, c'est-à-dire que j'ai éliminé à la fois ceux qui jouent le plus, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans, et ceux qui ne jouent pas du tout, hein, après 39 ans ou moins en tout cas, pour garder une population où je pouvais à peu près avoir des gens à la fois qui jouaient et qui lisaient, parce que, voilà, de manière à ce que ce soit à peu près équilibré, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a bien un effet du diplôme sur cette population, sur le fait d'aimer ou pas le manga. Alors, d'abord, au niveau des non-diplômés ou des faiblement diplômés, où même si l'on aime jouer, on n'en aime pas forcément les mangas, puis au niveau des diplômes universitaires, entre les titulaires de diplômes de premier cycle, qui disent pour la plupart, pour la plus grosse proportion d'entre eux, jouer au moins une fois par semaine et lire des mangas, et les titulaires de diplômes de second et troisième cycle, qui, eux, ne lisent pas de mangas. Vous voyez ? Donc là, on a bien quelque chose qui se détache au niveau des diplômes. Et puis, eh ben, évidemment, la troisième catégorie, ce sont les comics, évidemment. Alors là, on a quelque chose d'assez intéressant, puisqu'en fait... Alors, il faut que je précise avant qu'au démarrage, la catégorie, quand on dit comics, au sens où ça a été utilisé dans l'enquête, ça regroupait l'ensemble des bandes dessinées anglo-saxonnes, y compris les différents strips comiques de genre Simpson et compagnie qu'on pouvait retrouver. Je précise ça parce que la première différence que l'on perçoit, bah, c'est qu'effectivement, la proportion la plus importante des gens qui les apprécient sont les personnes qui n'ont aucun diplôme ou qui ont un diplôme inférieur au baccalauréat. Ce sont 57% d'entre eux qui les aiment bien, contre 49% des personnes ayant au moins un baccalauréat. Mais vous voyez, entre 49 et 57, ce n'est pas monstrueux comme différence. Donc on se dit, il y a quelque chose, mais il faut creuser un peu plus. La proportion la plus importante de lecteurs de comics se trouve parmi les personnes sans diplôme. Ça concerne 55% d'entre elles. Mais si l'on observe ces chiffres pour la population des 18 à 39 ans, là encore j'ai coupé pour prendre ceux qui lisaient le plus de comics, eh bien la différence est encore plus nette. Ce sont 65% des adultes lecteurs de bande dessinée n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au bac qui sont lecteurs de comics, et ce ne sont plus que 50% des adultes lecteurs de bande dessinée ayant un diplôme supérieur au baccalauréat. Là, on a 15% de différence, c'est mieux. Mais on peut être encore plus précis, parce qu'en fait, il y avait une question qui portait directement sur le fait d'aimer ou pas les super-héros. Et de fait, l'idée, c'est que si on leur pose directement la question, eh bien, on a une opposition entre les lecteurs adultes qui n'ont aucun diplôme. C'est 71% d'entre eux qui déclarent aimer bien ou beaucoup les super-héros, alors que les titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle, eh bien, ne sont plus que 42% à déclarer aimer les super-héros. Et d'une certaine manière, vous voyez que bah, là, on a décrit un ordre des styles de bande dessinée entre eux, en fonction du niveau de diplôme, qui suppose malgré tout une certaine reconnaissance des comics, des mangas ou des romans graphiques, comme étant de plus ou moins grande valeur par rapport au niveau des diplômes dont on dispose. Comprenez-moi bien, au démarrage, cette enquête n'a pas été faite pour enquêter directement sur les effets, ce qu'on pourrait appeler de la légitimité sur les lecteurs. Là, c'est ce qui ressort directement des données. Hein, c'est-à-dire que c'est vu de manière plus inductive que déductive. En fait, on n'a pas cherché à relier ces effets. Mais de fait, ces effets apparaissent bien, ce qui montre que finalement, ben, malgré tout, à la fois, je le disais tout à l'heure, il y a davantage de lecteurs probablement parmi ceux qui sont les plus diplômés, mais aussi pour eux, eh bien, se jouent des effets de légitimité, ou en tout cas des représentations de ce que serait la légitimité de certaines bandes dessinées par rapport à d'autres, qui classent globalement les bandes dessinées, alors en dehors des bandes dessinées traditionnelles, vous l'avez compris, mais dans l'ordre, roman graphique, manga, comics, de manière assez nette. Hein. Donc voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'on peut faire pour la totalité de cette partie-là. Donc, je vais essayer de conclure rapidement. Simplement pour dire que ce que vous voyez, bah, c'est qu'on voit vraiment des facteurs très, très différents. D'un côté, la famille, c'est très, très net, et surtout à l'enfance. Ensuite, d'autres sources, les médias, les sociabilités juvéniles, les bibliothèques, probablement agissent. Et on voit bien aussi que finalement, si on arrête la bande dessinée pour une part importante des enfants... Enfin, ceux qui arrêtent avant 15 ans, c'est globalement lié au fait qu'il y a aussi des représentations qui disent que ben, quand on grandit, on arrête de lire des bandes dessinées, ce qui laisse à penser aussi que peut-être tout le travail sur le passage des bandes dessinées pour enfants à des bandes dessinées qui seraient pour un public davantage adulte n'est pas fait ou est peu fait. C'est-à-dire que finalement, probablement, on a des enfants qui peut-être eux-mêmes ne savent pas forcément que la bande dessinée s'adresse aussi à un public davantage adulte ou alors qu'ils ont une stratégie peut-être pour essayer de s'affirmer en tant qu'adulte. Mais l'idée, c'est de dire que finalement, l'acquisition du goût ne se fait pas par un seul moyen, bien sûr, que c'est dans la confrontation des différents agents d'influence que s'élabore d'abord l'intérêt pour la bande dessinée, et que globalement, si la bande dessinée s'affirme comme étant relativement diverse et variée, eh bien, malgré tout, on retrouve bien des effets de légitimation, de représentation qui agissent, on l'a vu, aussi bien pour les adultes, pour les enfants aussi, mais d'une autre manière, et qui font que, globalement, le fait d'acquérir le goût pour la lecture, de manière générale, probablement passe en partie, enfin, ou de manière possible, pour la bande dessinée, mais que, globalement aussi, lire de la bande dessinée n'est pas suffisant pour pérenniser le goût, ni même le goût, d'ailleurs, pour la bande dessinée, en soi. Ce qui pose tout un problème, puisqu'on a longtemps cru que la bande dessinée favorisait le goût pour la lecture. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, enfin, au contraire, pas au contraire, mais que si c'est vrai pour une certaine partie de la population, là, non seulement il y a des gens qui ont du goût pour la bande dessinée lorsqu'ils sont enfants, mais qu'ils l'arrêtent ensuite, mais on voit aussi qu'une proportion non négligeable de ces personnes lisent très peu d'autres ouvrages. Voilà. Et normalement, ça se termine joliment, parce que voilà, c'est terminé. Merci.